Les deux orphelines, cinquième partie, chapitre 10. Maintenant, le rémouleur ne manquait pas de se rendre chaque jour aux environs de l'hôtel du docteur Hébert. Il se promettait bien de ne pas manquer l'occasion de suivre Louise et Henriette la première fois qu'il les rencontrerait. Ce ne fut que 3 jours plus tard qu'il aperçut les deux jeunes filles sortant de la maison du médecin, et toujours accompagnées de l'inévitable Picard. Le rémouleur les suivit à distance jusqu'à ce qu'il les eût vues entrer à l'hôtel de Lignières. Sa stupéfaction fut grande et il se demanda comment ces deux pauvres orphelines avaient pu trouver asile dans la demeure du lieutenant-général de police. Pierre éprouva une commotion violente. Il se dit qu'inévitablement Louise, interrogée, avait dû parler de son séjour dans l'antre de la mendiante. Le malheureux se voyait déjà, lui et sa mère, aux prises avec les agents et probablement obligé de comparaître devant le magistrat. Et en présence de Louise, il lui faudrait entendre le chef de la police stigmatiser l'ignoble existence de la Frochard. Certes, le magistrat ne manquerait pas de rappeler la fin de Frochard l'assassin, et Louise saurait que celui qu'elle avait appelé son ami était le fils d'un supplicié, roué vif en place de grève. Cependant, comme 8 jours s'étaient écoulés depuis et que rien de fâcheux ne survenait pour lui, il se hasarda à retourner devant l'hôtel de Lignières. Son cœur battait bien fort à l'idée qu'il pourrait peut-être apercevoir Louise à l'une des croisées de l'hôtel. Le rémouleur marcha fiévreusement jusqu'au coin de la chaussée. Mais là, il ralentit le pas. Il avait trop compté sur son courage qu'il abandonnait au fur et à mesure qu'il approchait de la demeure du lieutenant de police. Il s'arrêta en effet à quelques pas du grand portail devant lequel une sentinelle des gardes françaises était en faction. Il tremblait, et pour la première fois peut-être, la boutique qu'il portait sur son dos lui parut une charge trop pesante. Courbé, traînant lamentablement la jambe, il se risqua enfin à faire quelques pas dans la rue. Ah, s'il eût osé lever la tête pour regarder aux croisées du premier étage, combien son cœur eût éprouvé de joie. Louise était là, à côté d'Henriette, qui lui racontait tout ce qui se passait au dehors. Mais, timidement, le pauvre diable avançait sans lever les yeux, de peur de se voir suivi par un agent. Toutefois, quand il eut parcouru la moitié de la rue, il s'enhardit, au point de pousser son cri habituel. « À repasser les couteaux, ciseaux, à repasser les couteaux !» Puis, tout tremblant de l'audace qu'il avait eue, il attendit. Rien d'extraordinaire n'étant survenu, le rémouleur revint sur ses pas, continuant à crier. « À repasser les couteaux, ciseaux !» Cette fois, il se risquait, à tout hasard, quoi qu'il dût lui arriver. En passant devant l'hôtel, il osa lever les yeux vers les fenêtres. Un cri de surprise et de joie s'étrangla dans sa gorge. Il venait d'apercevoir le doux visage de l'aveugle. Du premier coup d'œil, il l'avait reconnu. C'était là les traits adorés de sa chère aveugle. Un nom faillit s'échapper de ses lèvres. Louise ! Heureusement qu'à ce moment, une autre tête venait se placer à côté de celle de Louise. Et Pierre reconnut cette jeune fille, qu'il n'avait aperçue qu'une seule fois, le jour où une lutte terrible avait eu lieu entre lui et son frère Jacques. Un nuage passa sur les yeux du rémouleur. Ces deux jeunes filles lui rappelaient ce qu'il n'avait cessé de qualifier « son crime ». Il eut honte que Henriette le vît. N'allait-elle pas dire à l'aveugle « Voilà ce malheureux qui a tué son frère !» Cette idée sembla avoir aiguillonné le rémouleur, car il se mit à marcher avec précipitation afin de se dérober à la vue d'Henriette. Celle-ci, toute à la conversation qu'elle échangeait avec Louise, ne l'avait même pas reconnue. Mais l'aveugle avait entendu les cris du rémouleur. Elle avait reconnu la voix du jeune homme, cette voix qui si souvent l'avait exhortée à la patience, au courage. Et elle était demeurée tout émue, sans oser faire part à son amie de l'impression ressentie. Elle avait supposé que le hasard, qui avait une première fois conduit les pas de Pierre dans ce quartier, devant l'hôtel de Lignières, se renouvellerait. Et elle se promettait de se placer chaque jour, à peu près à la même heure, à la croisée, dans l'espoir que le rémouleur reviendrait. Elle ne fut pas trompée dans son attente. Le lendemain, et pendant plusieurs jours, Pierre ne manqua pas de passer. L'imagination de Louise n'était pas demeurée inactive. La jeune fille en vint à se persuader que son ancien compagnon d'infortune, après avoir découvert la maison où elle avait reçu l'hospitalité, avait saisi l'occasion de lui faire savoir qu'il n'avait pas oublié l'aveugle dont il s'était, dès les premiers jours de son arrivée dans le bouge des Frochards, constitué le protecteur. Louise espérait peut-être trouver l'occasion de faire comprendre Rémouleur qu'elle ne restait pas insensible à son souvenir. La pauvre chère créature ne s'illusionnait-elle pas sur le genre de sentiment qu'elle éprouvait déjà pour celui qui avait été son compagnon d'infortune? Ce qu'elle avait pris tout d'abord pour une sympathie inspirée par la communauté des souffrances subies ne tarda pas, effectivement, à devenir la pensée dominante de Louise. Chaque jour, elle venait se placer un peu plus tôt à la croisée, de peur de ne pas s'y trouver au moment où passerait le Rémouleur. Et elle éprouvait une insurmontable anxiété quand celui-ci se trouvait en retard. « S'il allait oublier, » pensait-elle, comme si tacitement elle et lui se fussent donné rendez-vous. Ce petit manège continua à l'insu d'Henriette. Pour la première fois de sa vie, l'aveugle cachait quelque chose de ses pensées et de ses impressions à son ami d'enfance. Mais un jour, son air contristé et son attitude abattue dénotèrent l'inquiétude éprouvée par elle. Pierre n'était pas venu, comme d'habitude, sous la croisée. Louise attendit avec impatience. Le lendemain, même absence du Rémouleur. 3 jours durant, la pauvre enfant vint attendre inutilement à la croisée. De guerre lasse, elle s'ouvrit à Henriette de son désappointement, de son inquiétude, voire même de son chagrin. Elle raconta tout à son amie, sans se douter l'innocente créature qu'elle ouvrait tout grand son cœur et qu'on allait pouvoir y lire, couramment, le sentiment réel qu'elle éprouvait pour l'être qu'elle n'avait jamais pu voir, hélas, mais qu'elle idéalisait dans sa pensée. À cette révélation, Henriette demeura interdite. Elle avait été si loin de s'attendre à cette confidence qu'elle ne put se défendre d'une pitié profonde pour cette infortunée dont l'âme s'épanouissait à un premier amour pour un être dont elle ignorait l'aspect, rendu grotesque, repoussant même, par la difformité de son corps. Elle jugea que son devoir était tout d'abord de consoler son amie. « Je m'informerai, lui dit-elle simplement, de celui qui t'intéresse à si juste titre, puisque c'est le seul dans cette famille Frochard qui t'ait témoigné quelque sympathie. » Mais Louise, malgré cette promesse, ne vit pas s'évanouir la tristesse qui l'avait envahie. Elle avait comme un pressentiment qu'il était arrivé malheur à son ami Pierre.